Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, rencontre avec la romancière Elisabeth Filliol.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce territoire était habité, il a été englouti. Rayé de la carte en un jour et une nuit par un raz-de-marée ou bien progressivement. Différentes thèses coexistent, mais tous les spécialistes s'accordent sur un point. Quand la révolution néolithique a atteint les pays riverains de la mer du Nord, le Doggerland avait déjà disparu. Exclu des mythes européens, de l'imaginaire collectif. Y voir là, dans cette amnésie, la conséquence d'un repli en douceur, étalé sur plusieurs siècles, des Iliens vers le continent, on voudrait y croire. Il n'y a pas de paradis perdu, il n'y a que l'oubli impossible d'une séparation mal faite, et l'absence de nostalgie quand tout s'est bien passé. Votre dernier roman, Elisabeth Filliol, explore par le texte les terres disparues du Doggerland. Vos deux personnages, Margaret et Mark, séparés par la mer du Nord et par le temps, convergent pour des raisons différentes vers ce territoire immergé et mystérieux. Bonsoir Elisabeth Filliol.
Bonsoir.
Votre dernier roman, Doggerland, est publié aux éditions POL. Merci d'être là.
Je vous remercie.
Le Doggerland, c'est donc ce territoire qui a été habité il y a 8000 ans et qui a été englouti sous la mer du Nord. Comment vous en avez eu la connaissance pour la première fois ?
Eh bien, en zappant à la télé et en tombant sur un documentaire de la BBC qui évoquait effectivement le fait que les archéologues travaillaient depuis une trentaine d'années sur un site archéologique submergé au milieu de la mer du Nord et qui était une île, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, mais pas une île de la taille de l'île d'Aix ou de l'île Dieu, mais une grande île, plutôt de la taille de la Sicile. Et voilà, et qui progressivement a été submergé par les eaux au moment où, en fait, de la fonte des calottes glaciaires après la dernière glaciation.
Et quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait un matériau dans le Doggerland pour un livre, pour un roman ?
Ben, en fait, j'étais en train de travailler sur les épreuves du livre précédent. Donc c'est vrai que c'est toujours encourageant d'avoir une perspective quand un livre arrive à son terme. Et j'ai eu cette idée que mon prochain livre s'appellerait Doggerland, mais ça part vraiment d'un mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre projet qui soit parti d'aussi peu. J'avais l'intuition qu'il y avait effectivement que ça pouvait ramener des problématiques qui me sont intimes ou des problématiques plus générales. Et puis il y avait aussi l'énigme que ça représentait ce territoire, puisque au départ je ne connais pas grand-chose. Il a fallu après quand même que je me documente pour essayer de m'en construire une représentation. Au départ, j'avais rien. Et puis, il y avait l'énigme et de sa genèse et aussi de sa disparition qu'il fallait creuser. Et puis, c'est aussi le principe un peu de mes livres. C'est-à-dire que je ne pars pas avec un programme. Et mon premier jet ne correspond pas du tout à ce que vous avez lu. Enfin, la chronologie de lecture n'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, pendant des semaines, j'ai tourné autour de ce Doggerland. Je l'ai exploré, je l'ai arpenté pour essayer de m'en construire une représentation et pouvoir ensuite commencer à ancrer des personnages et des situations. Mais le livre est parti de ce mot et il a avancé un peu en aveugle, quand même.
Vous diriez qu'il a une qualité particulière, ce mot-là, Doggerland ? D'évocation ?
Ben, je dirais que ce qui m'a le plus saisi, alors bon, quand j'étais petite, on naviguait, mon père avait construit un bateau, donc j'entendais la météo marine, Dogger, Fischer, German, etc. Et ça vient de là, il y a un haut fond, c'est-à-dire un endroit où la mer du Nord, où les fonds marins remontent, où il n'y a que 20 mètres d'eau en moyenne, là où partout ailleurs il y a 100 mètres. Et c'est en fait l'ancien territoire du Doggerland. Donc peut-être ce mot a résonné comme ça dans mes mémoires. Mais je crois que surtout ce qui m'a surprise quand j'ai entendu ce nom-là, c'est de me dire j'en ai jamais entendu parler. Et il en reste rien. Enfin, à la hauteur de ma culture, mais il n'en reste rien dans les mythes européens. Alors que si vous allez voir les aborigènes, par exemple, qui ont eu le même problème à la même époque, c'est-à-dire que, par exemple, la Tasmanie a été séparée de l'Australie, et bien, tous les peuples aborigènes du sud de l'Australie ont, dans leur mythologie, dans leur grand récit, ça porte témoignage de cette montée des eaux, de cette perte de territoire, etc. Et en Europe, non. Et 6000 ans, on se dit, enfin 6000 ans avant Jésus-Christ, on a l'impression que bon, c'est vieux, mais en fait non, parce que il y a l'agriculture et l'élevage au Moyen-Orient, ça arrive déjà un peu chez nous, donc c'est pas vieux. Et puis même les Mésopotamiens, ils ont encore le déluge. D'ailleurs, on se demande si ça vient pas de mythes moyen-orientaux, etc., de la même époque. Donc pourquoi ce Doggerland a été érayé de la carte, érayé de la mémoire collective?
Alors qu'on dit que l'Europe est un vieux continent, qu'on est chargé de mythes et d'histoires en plus.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme brassage de population? Parce que je pense que ça doit être ça qui a fait que les gens qui portaient ça encore dans leur cosmogonie, ça a disparu, je ne sais pas. Mais en fait, ça fait partie des énigmes qui m'ont donné envie d'aller creuser, de me dire, voilà, il y a un territoire et il est réel. Enfin, maintenant, c'est un site archéologique, mais ça paraît totalement inconcevable et pourtant, ça existait. Et c'était très grand.
Il y a encore 5 ans, dans les dictionnaires, Aberdeen était une ville universitaire d'Écosse. 190 000 habitants, textiles, pêche, constructions mécaniques et navales. Aujourd'hui, entre les pêcheries, les pétroliers ont insinué leurs dépôts et leurs terminaux. Sur les côtes, ils ont tiré leurs oléoducs, leurs gazoducs. Sans avoir troublé outre mesure la vie quotidienne, les compagnies pétrolières internationales ont pris possession des alentours en construisant des sièges sociaux, des hôtels, et le vol incessant des hélicoptères se mêle à celui des cygnes et des oies sauvages. En 1980, la mer du Nord va produire 100 millions de tonnes de pétrole, l'équivalent de la consommation française, et 200 milliards de mètres cubes de gaz. Et d'autres réserves ont été découvertes de plus en plus au Nord. Mais pour extraire ces richesses, il a fallu révolutionner les techniques. Des plateformes d'acier connues depuis plusieurs dizaines d'années, comme celles que fabriquait la CFEM à Dunkerque, il a fallu passer à des plateformes en béton, plus lourdes. Celles-là pèsent 250 000 tonnes, des plateformes capables de résister au vent et à la mer, capables de forer à plus de 100 mètres de hauteur d'eau, d'abriter des hommes pour plusieurs jours, du matériel complexe, de fournir leur propre énergie et d'éliminer leurs déchets.
Elisabeth Filliol, on écoute une archive, un journal de France Télévisions Nord-Pas-de-Calais, le 24 novembre 1978, qui parle de la mer du Nord et de la mutation notamment de la ville d'Aberdeen, que vous évoquez, vous, dans Doggerland. Il y a les deux personnages que j'évoquais en introduction de ce roman, que sont Marc et Margaret, et tous les deux convergent vers cet espace-là, qui est l'espace de la mer du Nord. Est-ce que dans l'exploration donc de ce Doggerland qui est immergé, il vous fallait des personnages inscrits dans ce paysage-là?
Alors, tout de suite, j'ai su quand même que le livre serait ancré dans l'époque contemporaine. Ça m'a effleuré l'esprit que...
De faire une fiction intégralement?
Non, pas intégralement, mais peut-être d'alterner des chapitres à l'époque préhistorique dont il est question, qui s'appelle le Mésolithique. Bon, je me suis... j'ai choisi une autre option. Et donc, je savais que j'allais l'ancrer dans l'époque contemporaine, mais je ne savais pas sous quel angle. Et en étudiant donc déjà dans un premier temps ce territoire du Doggerland, en lisant des publications, je me suis aperçue que la majorité des informations, les archéologues, les géologues, les paléontologues qui travaillent dessus, ils ont ces informations grâce à l'industrie pétrolière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un territoire qui est compliqué à aller explorer. Et les données sismiques, bathymétriques et les carottages, tout ça, c'est en fait des données de l'industrie pétrolière auxquelles ils ont eu accès. Et c'est pour ça que les connaissances sur le Doggerland explosent depuis une trentaine d'années. Et c'est concomitant avec, en fait, l'explosion de la recherche d'hydrocarbures en mer du Nord. Et c'est comme ça qu'en fait, au départ, le personnage de Margaret est arrivé en premier, puisque...
L'archéologue.
Voilà. Enfin, elle est même géologue. Ils sont tous les deux géologues de formation, mais elle va partir effectivement sur... Elle va se concentrer sur ce territoire et c'est cet objet d'étude-là qui a une importance pour elle. Donc, elle est apparue en premier... Mais Marc est arrivé très vite parce que il y avait un télescopage là déjà une formation commune, on peut suivre deux voies différentes, deux carrières totalement opposées et deux visions du monde et deux rapports au monde et deux rapports, de style de vie très très différents. Et je suis allée à Aberdeen pour les besoins du livre. Et je vous confirme que c'est tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire que c'est la deuxième ville du pays en nombre de milliardaires par habitant après Londres. Alors bon, il y a 100 000 ou 150 000 habitants, donc ça fait pas...
C'est une petite ville.
Voilà. Mais on le voit, enfin, on le voit dans, dès qu'on se promène autour dans la taille des maisons, on le voit dans les voitures, dans les rues. Enfin, c'est le nombre de Porsche et de Ferrari au mètre carré est quand même important. Donc, on sent qu'effectivement, c'est une ville qui, à un moment donné, a eu sa révolution, enfin, a eu sa ruée vers l'or. Bon, après, c'est cyclique, hein, c'est-à-dire que comme les cours du pétrole de mer du Nord, qu'on appelle le Brent, montent et descendent, eh bien, quand c'est des mauvaises années qui s'enchaînent, on peut licencier 10 000 personnes, et là, la ville se vide. Enfin, il y a for sale sur tous les immeubles. Et puis, ça revient. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas, mais... Puisque c'est un pétrole qui est quand même coûteux à extraire, donc en dessous d'un certain...
Caché dans la roche, oui.
Oui, donc en dessous d'un certain prix du baril, et les Saoudiens, en ce moment... font en sorte que ce soit le cas, c'est un pétrole qui n'est plus rentable à extraire. Ou quasi à perte. Quoi.
Est-ce que vous trouviez intéressant de montrer aussi justement ce fait qu'il y ait un savoir, qui est un savoir archéologique, du point de départ géologique, qui donne un savoir d'un côté archéologique et de l'autre, qui va être plus de l'ordre de l'extraction des hydrocarbures, de les montrer aussi, d'une certaine manière, comme alliés et aussi concurrents. C'est le fils de Margaret qui notamment lui fait le reproche d'être allié finalement à des grandes puissances capitalistes dans son travail.
Bah, c'est-à-dire que ça a été ma surprise, moi déjà, en tant que lectrice des publications, de me dire c'est quand même l'alliance de la carpe et du lapin. C'est-à-dire que, certes, les universitaires puisent dans les bases de données des compagnies pétrolières, mais en même temps, ce territoire-là va être détruit. Enfin, il va finalement pas l'être par des plateformes pétrolières, puisque c'est pas à l'aplomb du Doggerland qu'on trouve le plus de pétrole, mais là il y a une énorme ferme éolienne offshore qui est en train de se bâtir, et qui aussi, par les données géophysiques qui sont recueillies, alimentent la recherche archéologique, mais pour le coup là, le territoire en dessous, enfin, les ancrages vont détruire une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Doggerbank. Donc, mais c'est vrai, dans toute l'archéologie préventive, même si vous construisez un supermarché à Marseille et que vous tombez sur des vestiges romains, ça va bloquer éventuellement les fouilles pendant un petit temps. Les archéologues vont faire leur travail, vont essayer de collecter des matériaux, enfin de voilà, le plus d'informations possible, mais ils savent que c'est perdu. Donc oui, c'est une alliance un peu contre nature, et en même temps... Est-ce que les recherches sur le Doggerland existeraient si... je pense que l'université n'aurait pas les moyens de financer des campagnes de prospection en mer du Nord comme ont été capables les compagnies pétrolières.
Ce qu'on entendait dans le journal télévisé de France 3 Nord-Pas-de-Calais aussi, c'était la description d'une infrastructure. Et les infrastructures, elles sont assez présentes dans votre roman. Quel intérêt vous trouvez à décrire les infrastructures contemporaines, Elisabeth Filliol?
Oui, et c'est vrai que ça m'a un peu évoqué mon premier roman, la centrale nucléaire, enfin les centrales nucléaires, ces bâtiments. De toute façon, les éléments déclencheurs, ce sont toujours des lieux. C'est-à-dire qu'autant les personnages sont fictifs dans mes textes,
c'est le lieu d'abord.
Autant les lieux, je les ai vus. D'ailleurs, si je suis allée à Aberdeen, c'est parce que pour parler d'Aberdeen, il fallait que j'y sois allée. Je suis allée au Danemark aussi, dans une ville aussi balnéaire qu'Eschberg. Donc, il y a cette fascination pour les lieux, et peut-être pour des lieux qui sont ni des lieux naturels, ni des lieux artificiels totalement. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas eu envie d'écrire en milieu urbain, 100% urbain. Et ces infrastructures, c'est en fait la présence de l'homme, mais massive, hein, quand même.
Sur un littoral.
Sur le littoral, ou en plein milieu de la mer du Nord, où une centrale, elle est forcément au bord de l'eau ou au bord d'un fleuve. Et cette espèce d'entre-deux, où il y a peut-être quelque chose d'un peu prométhéen, c'est-à-dire la confrontation de l'homme avec la nature. Et là, l'homme, il est visible en grand. Mais en même temps, la nature, dans une plateforme offshore, en plein milieu d'un ouragan... ils évacuent, c'est ce que je montre dans le livre, hein, quand même, ils évacuent.
Ils ne résistent pas.
Bah, la plateforme peut-être va résister, mais enfin, ils essaient de mettre les équipages à l'abri, ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, la nature reprend ses droits aussi.
C'est un roman qui donne à voir aussi un certain nombre, et qui met en jeu un certain nombre de savoirs, et des savoirs extrêmement concrets. On parle de la géologie, de l'archéologie, il y a l'hydrographie, la sismologie. Comment vous vous insérez dans ce savoir-là par la littérature? C'est un travail de documentation?
Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que je ne vais pas aborder un sujet si je n'ai pas un intérêt préalable pour des disciplines qui vont être accueillies par le sujet. Donc là, par exemple, le Doggerland, typiquement, je sais que il y a une histoire géologique et que il y a eu une culture préhistorique mésolithique particulière. C'est des thématiques qui m'intéressent depuis longtemps. Donc le sujet me séduit aussi pour ça. Après, je ne savais pas comment la mer du Nord s'était ouverte. Je ne savais pas pourquoi les plateformes pétrolières sont alignées. Et quand on ouvre une carte, c'est quand même très surprenant. Le pétrole est aligné sur une ligne médiane au milieu de la mer du Nord. Toutes les plateformes sont là. Pourquoi il n'y en a pas ailleurs? Et ben, si on reprend la géologie, l'histoire de l'ouverture de la mer du Nord, un peu comme l'Atlantique est en train de s'ouvrir, ben, la mer du Nord, à un moment, s'est ouverte. Et ça a fait une énorme vallée, enfin un rift, où la matière organique s'est accumulée, et puis bon, après, voilà, ça s'empile, il y a des conditions de transformation en hydrocarbures. Et ça s'est fait là, et pas ailleurs. Et donc il y a des disciplines qui m'intéressent, voire qui me fascinent, on peut le dire. Bon, après, tout le monde ne l'est pas, hein. C'est vrai que l'époque préhistorique, enfin les hommes du Mésolithique, on peut se dire, bon, c'est pas passionnant. Moi, depuis longtemps, il y a quelque chose qui me fascine dans le rapport au monde qu'on peut imaginer leur prêter. Enfin d'ailleurs, des anthropologues travaillent dessus, ou des ethnologues, sur le fait que des sociétés traditionnelles, même encore actuelles, ou du 19e, avaient un rapport au monde radicalement différent du nôtre. Et ces populations mésolithiques du Doggerland, c'est sûr, c'était des chasseurs-cueilleurs, les derniers chasseurs-cueilleurs de l'Europe, époque tempérée, la même que nous, mais ils ne s'inscrivent pas dans le monde comme nous. Et quand je dis c'est juste avant le néolithique, c'est que le néolithique va tout changer. C'est-à-dire que le néolithique, c'est on défriche, on irrigue, on cultive, donc on transforme la nature. Et là, on est sur des populations, enfin, d'après les recherches qui ont été faites, et par analogie avec des populations amérindiennes, etc., les paléontologues pensent qu'on est sur des populations qui sont encore, qui se pensent encore comme un élément d'un tout et pas le super prédateur au sommet de la pyramide. Enfin, et je trouvais que ce moment de bascule, puisque bon, bah, ce territoire va être submergé et qu'après c'est notre Europe, hein, celle qu'on a. Je trouvais que ce moment de bascule était intéressant à analyser aussi. Mais bon, encore une fois, voilà, c'était des pistes qui pouvaient s'ouvrir et après. On peut creuser une piste ou une autre, mais le personnage de Margaret est né de cette problématique-là aussi. C'est-à-dire, pourquoi un scientifique aujourd'hui peut consacrer 25 ans de sa carrière à des recherches comme ça? Ils sont des dizaines, hein, en Angleterre, en Norvège. Et en poussant le curseur un petit peu plus loin, je me suis dit, oui, elle a peut-être un rapport au monde elle-même un peu spécial, un peu compliqué, et travailler ce territoire-là, travailler une autre présence au monde, et ben, peut-être qu'elle résout quelque chose par ce biais-là. Enfin, c'était une hypothèse. En tout cas, c'est comme ça que j'ai creusé ce personnage-là.
Un rapport a été commandé par le gouvernement néerlandais, et les conclusions des experts, rendues en début de l'année dernière, n'ont fait que renforcer la conviction de Marc Berthelot qu'un processus est en cours, qui déborde les mouvements de rééquilibrage du réservoir de Groningen, que le bassin de la mer du Nord, à force d'être sollicité, percé, vidé, se rebiffe, alors même que sous ses 3 ou 4 kilomètres de sédiments, il doit faire et composer avec ce qu'il est, avec son histoire géologique tourmentée. Des déséquilibres, des perturbations dont témoignent les salariés à bord des plateformes qui sentent régulièrement trembler le sol sous leurs pieds, une réalité qu'enregistrent les appareils de mesure de Margeos, et une occurrence et une durée des microséismes ou séismes de moyenne amplitude qui ne font que croître le long d'un axe médian, là où est concentrée la majorité des forages et des plateformes en mer du Nord, de part et d'autre de la ligne de démarcation des zones territoriales, quelque chose bouge, se réajuste dans les entrailles de la Terre, dont l'écho lui parvient. Depuis longtemps, ça lui parle, en sourdine, en sous-main, son inconscient travaille, et le savoir qu'il en avait encore hier matin n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il l'a réalisé. Il s'en est rendu compte la nuit dernière, quand l'ensemble brutalement s'est cristallisé. Depuis tout ce temps qu'il emmagasine, qu'il est aux premières loges, que les navires de la société sillonnent le bassin, ses équipes enregistrent des signaux, collectent des données, les retraitent en fonction des missions et du cahier des charges. Entre ce qui entre et ce qui sort, entre les informations recueillies et celles qui sont rendues publiques, l'écart est fait de rebuts, des erreurs, de l'inutile, des signaux parasites émis par le sous-sol et captés par les instruments de mesure. Tout un volume de données qui n'alimente pas le chiffre d'affaires et parfois pénalise la rentabilité, quantité de résultats partiels ou intermédiaires que Margeos conserve dans sa base, qui n'intéressent pas grand monde et qui finissent cependant, à la longue, par dessiner un tableau. À 10 mètres de la Volvo, il presse encore l'allure. Il avance sous la pluie, non pas l'esprit léger, mais libéré d'un poids.
Elisabeth Filliol, on écoute un extrait de Doggerland, lu par Anna Baron, où là c'est le deuxième personnage du roman, enfin deuxième personnage important, qui s'appelle Marc Berthelot, et qui lui travaille dans les compagnies pétrolières et d'extraction d'hydrocarbures. Et on entend dans ce texte-là un moment assez particulier où il sent que quelque chose bouge dans la terre, quoi. Quelque chose a lieu. Est-ce qu'il vous fallait aussi montrer ce lien que peut avoir un personnage avec ce qui se passe dans les souterrains ? D'une manière un peu instinctive aussi.
Alors, le personnage de Marc, je l'ai d'abord construit en lien avec les hauts et les bas du capitalisme en général, qui alterne quand même des phases comme ça de croissance, de spéculation, puis des phases de dépression. Et les cours du pétrole, alors là, ça en est un exemple manifeste. Ils sont exemplaires de ce fonctionnement-là par cycle. Donc là, avant de parler souterrain, je dirais que les premières images que j'ai de Marx, c'est l'image de quelqu'un qui fonctionne par cycle. Alors après, dans le livre, on le voit plutôt en phase haute, hyperactif, mais en creux, on donne à voir aussi qu'il a des failles, et que cet investissement qu'il a eu dans l'industrie pétrolière, et je pense que c'est un cadre exemplaire ou qu'il l'a été longtemps, et il y trouvait son compte. Il aimait le changement, la mobilité, il était fasciné par les technologies qui permettaient d'aller toujours plus loin, de repousser les limites. Mais c'est un coup psychique. Et on le voit en creux, on le voit après, peut-être plutôt après dans les échanges qu'il va avoir avec Margaret, qui dans cet effet de miroir lui permet aussi de faire un pas de côté ou de remettre sa trajectoire un peu en perspective. Donc effectivement, il est à la fois surinvesti, très intégré dans cette industrie, et je pense menacé de désintégration. Et c'est peut-être ça qui le rend ultra sensible à ce qui après est un phénomène objectif, à savoir qu'à Groningen, qui est aux Pays-Bas, l'endroit où se situe le très très grand gisement de gaz qu'ils ont découvert à la fin des années 50. Et c'est la découverte de ce gisement qui leur a fait dire aux géologues, mais alors attendez, s'il y a du gaz là, alors on va aller voir sous le sous-sol de la mer du Nord, parce qu'il y a peut-être d'autres hydrocarbures. Et c'est le début de cette aventure-là. Mais du coup, Groningen a 50 ans avant, enfin voilà, ça s'est exploité depuis 1960. Et le sol bouge, c'est-à-dire que les maisons se fissurent, les habitants se sont regroupés entre eux, sont montés en association. Parce qu'à force d'avoir vidé les réservoirs, même si c'est à 2 ou 3 km de profondeur, eh ben, y a des rééquilibrages et les habitants se sentent menacés. Non seulement menacés déjà parce que leur maison menace de s'effondrer, mais parce que ça pourrait provoquer à un moment donné un vrai séisme et un raz-de-marée. Et on sait qu'ils sont sous 5 mètres en dessous du niveau de la mer. Il y a des digues qui les protègent. Le jour où la digue cède, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il y a eu un rapport d'experts en 2013, je crois. Pour la première fois, les Néerlandais ont commandé de leurs experts un rapport, parce que jusque-là, ils étaient dans le déni. Ça fait des décennies que ça tremble, mais ils étaient dans le déni. Et il commence à envisager de réduire la production de gaz aux Pays-Bas, ce qui serait quand même une première. Mais c'est bon, c'est probablement déjà un peu tard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié du réservoir, je crois, qui a été vidé. C'est là-dessus qu'on sait que les Pays-Bas vivent depuis voilà, leurs serres chauffées, qui ont irrigué l'Europe de fruits et légumes. Ben, ça vient de là, hein, ça vient de ce gaz. Et c'est quand même une thématique qu'on retrouve après sur les plateformes, c'est-à-dire qu'effectivement le sol tremble par moment. Et plus on remonte et au large de la Norvège, où là il y a un fond marin qui est instable, qui s'appelle la marche Storegga pour les Norvégiens, et qui donc voilà, est à l'origine d'un célèbre tsunami en mer du Nord. Et ben plus on remonte vers cette zone-là, plus le sous-sol quand même est fragile. Enfin, aller percer en soi n'est pas grave, mais aller vider et aller modifier tous ces équilibres internes, ça peut avoir des conséquences. Mais bon, il y a des gens qui surveillent ça, des sismologues, comme à côté du Vésuve. On verra bien.
Est-ce que c'est un roman où il y a énormément de flux? C'est-à-dire des flux monétaires, il y a les cours du pétrole qui sont expliqués, on voit aussi les couches de sédimentation successives, il y a aussi le flux de la conscience des personnages. Est-ce que vous faites un lien entre tous ces flux-là? Est-ce que écrire ce roman vous a permis de faire le lien, en tout cas?
Alors, pas de manière consciente, mais je dirais que pour donner une profondeur au personnage, je fonctionne moins par une descente en introspection, que par une projection de leurs états d'âme sur l'extérieur. Bon, et c'est peut-être aussi à ça que sert cette tempête qui enveloppe le livre, parce que finalement, ils ont des sentiments, mais qui peuvent être tenus au moins dans leur expression, parce qu'au bout de 20 ans, on ne s'exprime pas comme... Enfin, ouais, 50 ans, on ne s'exprime pas comme à 25. Mais ça permettait aussi de déplacer, donc peut-être il y a un déplacement de flux, c'est-à-dire que ce qui est retenu en interne va être montré dans le roman d'une autre manière, par cette tempête, Xaver, qui est historique. Hein. Pendant 3 jours, ça a soufflé en Europe du Nord et ça a été comme notre tempête de 99. Et la mer était démontée et une partie du Yorkshire et du Norfolk ont été inondées, enfin, ou submergées, enfin... Et ça correspond à un état d'esprit de mes personnages qui est effectivement un peu tourmenté aussi à ce moment-là. Donc peut-être que je le joue comme ça.
Il y a deux catégories d'écrivains en ce qui concerne l'impression visuelle. Il y a ceux qui sont myopes et ceux qui sont presbytes, en effet. Il y a des gens qui décrivent et qui voient surtout le lointain, c'est sûr. Et d'autres qui voient les petits objets menus et les décrivent merveilleusement, quelquefois. C'est sûr, je crois que ça existe et je ne crois pas qu'on puisse être exactement avoir les deux capacités à la fois. On a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Je me souviens que Breton, par exemple, j'ai connu, était à ce point de vue très typiquement, il s'intéressait pas tellement au vaste paysage, mais il avait une passion pour les petits objets, moi ce que j'appelle les bijoux naturels, les coquillages, les oiseaux-mouches, les papillons, les richesses, les papillons. Je m'intéresse plutôt au panorama, enfin au paysage, au vaste paysage. Il est certain que si j'ai un promener, si j'ai le choix, je prends un chemin de crête plutôt, pour avoir des vues. Oui, ça c'est instinctif. C'est la face de la Terre on dit, qui m'intéresse, le mot est de Suss. Je trouve ça beau, le titre du ouvrage de Suss, Face de la Terre, c'est un beau titre. C'est ça qui m'intéresse, j'aime bien la découvrir sur de grands espaces. Les grands panoramas me fascinent beaucoup. Il y a bien des raisons. Je me suis demandé quelquefois pourquoi. Je pense qu'il y a une raison tout de même, en fait, subjective là-dedans qui joue. Au fond, un grand panorama, j'imagine, c'est quand même une projection d'un avenir. Malgré tout, dans l'espace, si vous voulez, c'est une sorte de chemin de la vie, si on veut. Mais alors, un chemin de la vie qu'on choisirait librement, parce que dans ce paysage, on a l'impression qu'on peut aller partout, choisir n'importe quel chemin, comme ça. Et alors, on a une impression de liberté, qui est très étonnante. C'est ce qui fait pour moi le charme extraordinaire des grands plateaux nus, enfin, au Braque, l'Écosse. J'aime beaucoup ces panoramas.
Elisabeth Filliol, on entend la voix de Julien Gracq, une archive de France Culture de 1978, la voix rare de Julien Gracq, où il fait cette distinction entre les écrivains myopes et les écrivains presbytes, avec d'un côté le monde vu de près et le monde vu de loin. Et j'ai trouvé que Doggerland était un roman qui jouait énormément sur un peu tout le spectre des échelles. On peut aller en moins 6000 avant Jésus-Christ, dans l'infini détail concret, matériel, d'un intérieur, à une tempête. Comment s'est articulé ce jeu-là des échelles?
Alors, il y a l'espace et il y a le temps. Là, Julien Gracq parle de l'espace. Et effectivement, j'aurais tendance à être un peu comme lui en toute modestie, disons, d'avoir besoin d'une vue d'ensemble pour organiser. Et c'est à partir d'une vue d'ensemble que je vais descendre dans des détails. Et éventuellement, après, les détails peuvent reconstruire, modifier l'ensemble, enfin, un jeu d'aller-retour. Mais j'ai besoin d'abord, effectivement, de la vision globale. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette espèce d'attirance de marotte pour la géologie quand je me promène. Parce que ce paysage que j'ai devant moi, si on prend une dimension géologique, enfin, si on l'intègre dans le temps géologique, alors c'est plus du tout le même. Ça, ou au moins, ça permet un pas de côté. Voilà. Et du coup, le paysage me fascine deux fois plus. Par exemple, moi, j'ai grandi à La Rochelle, ville balnéaire, dont j'ai profité. Eh bien, à l'époque du Doggerland, La Rochelle est 200 km à l'intérieur des terres. Voilà. Et la côte atlantique est plus loin. Le golfe de Gascogne est à sec. Le golfe du Morbihan aussi. Enfin, voilà. Et donc, j'aime bien cette dimension que la géologie donne au paysage, qui est finalement de l'inscrire dans du temps. Puisque le paysage ou la géographie nous paraît là un peu de toute éternité. Quand on voit la configuration de nos continents, on se dit, bon, c'est vrai pour un moment, ce qui est pas faux, mais ça n'a pas toujours été le cas, et ça ne sera pas toujours le cas. Voilà. Et peut-être que pour la première fois, effectivement, j'ai davantage joué sur les échelles de temps que dans les deux premiers romans où véritablement la dimension géographique était forte et cette attirance pour la dimension géographique. Et là, l'échelle de temps, il y en a. Il y a déjà l'échelle narrative, puisque ça se passe sur 48 heures, qui est le temps de la tempête. Et comme en Suisse, on sent dépressionnaire, c'est-à-dire qu'on prend d'abord les personnages là. En Écosse, au moment où elle arrive, mais après, on rejoint notre personnage et elle n'est pas encore arrivée en Scandinavie. Donc, c'est vraiment, elle tient toutes les 48 heures du roman. Il y a l'échelle biographique des personnages qui vont revisiter leur propre histoire et puis se confronter à ce rapprochement qui va un peu les ramener dans le passé et aussi les confronter à certains choix qu'ils ont faits. Et tous les deux ont quand même ce point commun que d'avoir choisi comme parcours professionnel un parcours qui part de la géologie, donc qui part des temps longs et même des temps très très longs. Et c'est vrai que je pense que pour comprendre, on n'a pas la même perspective quand on va faire son plein à la pompe. Et qu'on sait que il faut 200 millions d'années. Enfin, les gisements de la mer du Nord, leur constitution s'est étalée sur 200 millions d'années. Voilà. Et ça, on s'en préoccupe pas. Ce qui est normal, parce que c'est des échelles de temps qu'on se représente même pas. Et puis il y a même cette troisième échelle, mais alors légèrement plus petite, qui est celle des hommes des derniers chasseurs-cueilleurs. Où là, c'est juste la bascule avant
l'immersion.
Pardon ?
Avant l'immersion.
Oui, avant l'immersion, et donc, mais aussi une autre échelle de temps, et donc d'autres. Enfin, c'est les mêmes que nous, en termes de cerveau. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus jeunes que ceux qui ont fait l'ASCO. Hein, c'est les mêmes que nous, mais qui fonctionnent différemment. Donc à chaque fois, ça permet un pas de côté, ça permet de remettre en perspective. Alors après, on y réfléchit. On s'en accommode, on s'en inquiète, on peut y réagir différemment, mais ça permet de déplacer les choses. Oui.
Julien Gracq, il voit dans la description du paysage, en tout cas, il le vit comme un espace de liberté. Et quand je vous écoute, je me dis que tous les paysages sont extraordinairement contraints, mais que l'espace de liberté serait plutôt celui de la description que vous avez de circuler d'un espace à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Vous le vivez comme un espace de liberté ou pas ?
Alors, je vis les... Alors, effectivement, je vis l'écriture comme un espace de liberté. C'est une parenthèse de liberté, puisque j'ai pas de... Puisque même à l'échelle du premier jet, étant donné que je ne suis pas contrainte parce que j'ai écrit... Si j'écrivais d'abord la première ligne, le premier chapitre, etc., on est quand même contraint parce qu'on a fait la veille, les mois précédents, etc. Alors moi, ça part dans des directions très différentes, c'est pas organisé. J'ai pas un éditeur qui m'appelle tous les 3 mois me demandant à quel point j'en suis, voilà, où j'en suis. Donc, alors c'est chronophage, hein, ce livre, il me faut 3 ans et demi pour l'écrire, parce que évidemment c'est pas très efficace comme processus. Mais l'avantage, c'est ça, c'est ce sentiment d'explorer le livre, c'est même enfin de chercher le livre dans une totale liberté. Et même si à la fin, effectivement, après l'histoire, des choses se nouent, on commence à avoir un peu des contraintes et les personnages ont pris effectivement une autonomie, donc on peut pas non plus faire ce qu'on veut en tant qu'auteur, mais ce sentiment de liberté, je l'éprouve, c'est vraiment un des rares endroits où je l'éprouve comme ça. Et le paysage qu'on a, on a la liberté de le percevoir d'une manière ou d'une autre, mais après, dans l'écriture, on a la liberté d'en faire quelque chose ou d'en faire autre chose ou bien de l'exclure, puisqu'à un moment donné, il va y avoir un tri qui est fait et puis je garde certaines pages, j'en garde pas d'autres et puis il y a des lieux qui disparaissent. France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Elisabeth Filliol.
La période géologique dans laquelle nous sommes, on va l'appeler anthropocène, et donc on va considérer que les humains, en masse, leur agriculture, leur technologie et leur industrie pèsent comme étant la force géologique la plus importante qui va définir la période dans laquelle nous sommes depuis la révolution industrielle. Toutes les questions d'association entre humains et non-humains se trouvent transformées. Et les géologues ne sont pas des gens, c'est pas des zozos, je veux dire, c'est des gens assez sérieux. Sur les 2 ou 3 derniers siècles, ça veut dire que les humains et les forces géologiques sont traités en quelque sorte dans le même souffle. Ce qui est assez amusant, c'est que vous considérez que beaucoup de philosophes s'intéressent au post-humain, et donc juste au moment où on parle de post-humain, donc on a l'impression qu'on est sorti de cette histoire. Brusquement, ce sont les géologues, qui sont des gens qui s'occupent des sédiments et du granit, de la tectonique des plaques, etc., qui se mettent à considérer l'humain en masse, évidemment, c'est un humain un peu différent, comme étant une force géologique égale à la tectonique des plaques, en gros, pour simplifier. Donc il y a un phénomène, un retournement de civilisation qui est quand même tout à fait passionnant et qui serait dommage de pas documenter.
Elisabeth Filliol, on entend la voix de Bruno Latour, le philosophe, sur France Culture en 2011, où il parle de cette notion qui est devenue célèbre depuis, celle d'anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique dans laquelle on serait rentré, où l'humain laisserait des traces indélébiles sur le changement de la planète. Est-ce que c'est une notion avec laquelle vous avez travaillé ou pas du tout? Dans l'écriture de ce livre de Garland.
Inconsciemment, oui, je dirais inconsciemment, parce qu'après j'ai lu des choses sur l'anthropocène une fois que le livre a été terminé. Disons que moi j'ai écrit un livre qui se passait à l'Holocène. L'Holocène, c'est ce qui démarre après la dernière glaciation et qui est marqué par une fonte des glaces, une montée des eaux, ce qu'on vit aujourd'hui. La différence, c'est que cette fonte des glaces, cette montée des eaux, elle s'arrête à l'Holocène environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Et après, ça s'était à peu près stabilisé. Donc à tous ceux qui nous disent, bon, bah, la fonte des glaces, de toute façon, ça a toujours existé entre chaque glaciation, je dirais oui, mais là, quand même, ça s'était stabilisé, ça redémarre pour d'autres raisons. Voilà. Donc effectivement, les géologues se demandent si cette époque géologique, au lieu de l'appeler Holocène, enfin, on ne marquerait pas la fin de l'Holocène pour démarrer l'Anthropocène. Et il y a un vaste débat entre eux qui est, mais alors quand démarre l'Anthropocène? Donc là, ils parlent de la révolution industrielle, c'est ce qui a l'air de tenir la corde comme date de, puisque c'est les premières, enfin c'est les débuts d'une libération de gaz carbonique très importante dans l'atmosphère. Mais il y en a aussi, je trouve que là, enfin, pour le livre, c'est ça qui m'avait le plus intéressé. Il y a aussi des géologues qui disent, eh bien, l'Anthropocène pourrait démarrer au néolithique. Et donc, du coup, ils superposeraient ça à ce rapport au monde qui change, à ce rapport
prédateur
à la nature, où jusque-là, ben voilà, quand on tuait une bête pour s'alimenter, on lui rendait hommage, voilà. Enfin, on utilisait tous les tendons, tous les os, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de gaspillage, parce que la bête était quand même pas morte pour rien, etc. Et au néolithique, ben ça change. Hein. C'est la terre doit nourrir une population, puis ça fait x10 la population en un temps record, quoi. Donc peut-être que c'est à ce moment-là que s'invente cette notion que des anthropologues comme Pierre Descola note, c'est-à-dire qu'on, nous les Occidentaux, ils nous traitent de naturalistes au sens où on oppose nature et culture. Et ils citent des tribus où cette notion, enfin quand on leur parle de nature, ils voient pas ce que c'est. Parce qu'en fait, ils sont inclus dedans. Ils se voient comme une composante et donc ils n'ont pas fait cette distinction. Alors, est-ce que l'Anthropocène démarre avec la distinction nature-culture? Je ne sais pas, je ne suis pas philosophe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a une puissance de feu qui permet de modifier le climat, qui permet de modifier les paysages, parce que c'est ça aussi. Hein. Une glaciation, ça modifie les paysages. Là, on était dans la steppe, puis aujourd'hui, on est dans la forêt de Fontainebleau. Mais surtout, ce que rend pas l'Anthropocène, c'est la vitesse de changement. Voilà. C'est-à-dire que les changements qu'il y a pu y avoir dans les temps anciens, puisqu'on alterne quand même le glaciaire et l'interglaciaire depuis très longtemps, mais les périodes interglaciaires, elles étaient lentes. Enfin, ça se mettait en place lentement. Et après, ça redéclinait lentement. Et cette vitesse de changement depuis 2 siècles, là, dans les carottages qu'ils font en Arctique, ils peuvent remonter de 400 000 ans le climat, ils n'ont jamais vu ça. Voilà. Les climatologues n'ont jamais vu des évolutions aussi rapides de changement de température. Et donc les écosystèmes, là où ils pouvaient éventuellement s'adapter, trouver des zones refuges, et puis après se redéployer, ils ne vont pas avoir le temps. Quoi. C'est aussi ça qui est... C'est le double impact. C'est-à-dire non seulement il y a un changement, mais à une vitesse qui, elle, est totalement inédite.
Et c'est l'idée qu'on ne peut plus trouver de traces où il n'y a plus d'humains, enfin sur la nature, c'est-à-dire l'empreinte de l'humain est partout. Et Bruno Latour utilise l'expression, il dit dans un même souffle, enfin homme nature est embarqué dans un même souffle. Et j'ai trouvé que Doggerland retraçait aussi quelque chose de cette histoire-là, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure dans la description des paysages où la nature et l'urbain se mélangent. C'est-à-dire il y a toujours ce jeu où on n'arrive jamais à démêler quelque chose qui serait de la nature pure et simple. Et l'activité humaine.
Alors, c'est vrai pour nous, Européens. Et je suis allée au Canada et j'ai vu autre chose. Enfin,
vous avez vu quoi?
Bah, j'ai vu de la vraie nature, quoi. Voilà, encore intacte. Hein. Enfin, et des Canadiens étaient venus chez nous, puisqu'on avait changé nos maisons, voilà. Et eux sont arrivés, la remarque qu'ils nous ont fait, on a l'impression d'être dans un jardin, hein, où tout est à l'échelle de... Bon, à l'échelle de... Ils ont sillonné la France, mais voilà, tout est... Le moindre parcelle de terre est cultivée. Donc je pense que c'est aussi peut-être un point de vue européen, c'est-à-dire quand même des espaces... des espaces de, où on se confronte à la nature. Enfin, un Canadien qui va bivouaquer au printemps dans un parc national, il est quand même confronté à la nature. Il fait gaffe de mettre sa nourriture en l'air pour que les ours ne l'attaquent pas, etc. Enfin, je crois que, bon, on est un peu... Mais ce même Canada a totalement sinistré une région comme l'Alberta de forêt boréale pour les schistes lumineux et les... Voilà, donc... Ces zones-là existent encore, mais et puis bon, on va pas parler de l'Amazonie qui est en danger là depuis peu. Ces zones-là existent, mais même ces zones-là, est-ce qu'elles vont être encore respectées? Ne serait-ce que l'Arctique où ils se disent ah, ça fond, c'est super, on va pouvoir faire des forages pétroliers.
Ce qui dépasse l'imagination, ce que personne ne se représente, il l'envisage, élabore des scénarios, se projette dans l'après, l'après du grand basculement. Dès lors que le processus est enclenché, sans que l'on sache avec certitude quel en sera le facteur déclenchant parmi les facteurs possibles, la suite est modélisable, et les dégâts aussi à distance de l'épicentre, en fonction de la topographie des côtes, de la hauteur de la vague et de sa vitesse de propagation. Chaque jour, dans leur laboratoire, ils réfléchissent à une fiction catastrophe, échangent, se consultent, de même qu'ailleurs, d'autres chercheurs, réunis en petites équipes pluridisciplinaires, travaillent sur la chute d'une météorite, l'arrêt du Gulf Stream ou le réveil de Yellowstone, soit quelques centaines de scientifiques à travers le monde, sous perfusion de fonds publics. On l'espère à fond perdu, investis et rigoureux dans leur approche qui apparaît si délirante hors du cercle restreint, dans la petite minutie de chaque instant et ses habitudes, fenêtre ouverte sur le campus, intégrés à leur communauté, attentifs au monde qui les entoure, ils s'autorisent à aller là où ils ne sont qu'une poignée à s'aventurer. Ils s'y enfoncent, à chaque étape franchie un peu plus profondément, au fil des mois d'études et des temps de simulation. Ils le font à leur risque et péril, conscients qu'il y a un défi à l'ordre mental à procéder ainsi, à triturer le réel pour le faire accoucher du pire parmi tous ses possibles. Ce n'est pas exactement la tournure d'esprit de Margaret, qui préfère ouvrir les yeux, tel Moïse la mer rouge dans les 10 commandements, plutôt que de les voir se refermer et tout engloutir. Qui préfère, plutôt qu'imaginer le prochain désastre, faire émerger des profondeurs, redonner forme et vie, ramener à l'air libre, dans le champ de la connaissance, ce qui a été perdu.
Elisabeth Filliol, on entend la lecture d'un deuxième extrait de Doggerland par Anna Baron. C'est le moment où Margaret se retrouve à un congrès, où elle va rencontrer Marc. Au Danemark, et elle est face à des experts du climat, enfin des collègues, qui déploient un certain nombre d'outillages scientifiques pour analyser la catastrophe, ou en tout cas quantifier ce qu'elle appelle l'inimaginable. Pourquoi avoir montré Margaret, enfin le point de vue de Margaret comme étant un pas de côté? Ce pas de côté-là qu'on entend. Préférer ouvrir la mer comme Moïse et pas évoquer avec des chiffres la catastrophe qui vient.
Parce qu'en fait, le débat, la table ronde à laquelle elle participe, parle d'un événement particulier, qui est l'événement Storega, qui s'est produit effectivement environ 6000 ans avant Jésus-Christ, donc au moment où le Doggerland disparaît. Et d'ailleurs, sur certains blogs, il y a une analogie comme quoi le Doggerland serait l'Atlantide, puisque ce tsunami a balayé les côtes du Doggerland. Sauf que c'était une île qui faisait 90 km de profondeur, donc même une vague de 30 mètres, on pense qu'elle ne va pas rayer l'île de la carte. Mais bon, ça fait partie de la mythologie. Et donc, y a une zone instable au large de la Norvège à cause de dépôts dès la dernière glaciation. Et ces dépôts qui bougent ont déjà provoqué un glissement de terrain qui a provoqué une vague de, enfin même plusieurs vagues de qui a, enfin qui a fait tout le tour de la mer du Nord. On en retrouve même des traces au Groenland. Et en fait, la table ronde, c'est pour ça que bon, elle y intervient. On pense que le tsunami n'aurait pas eu la même ampleur suivant que le Doggerland faisait obstacle au milieu de la mer du Nord ou pas. Donc un tsunami de cette taille-là aujourd'hui balayait les côtes de la Belgique, de l'Allemagne, là où le Doggerland à l'époque a dû tout arrêter. Donc c'est un, voilà, c'est ce sujet-là. Et elle, effectivement, elle est plutôt dans une vision... dans une vision constructive et de laisser aux générations futures quelque chose et un ancrage dans le passé. C'est comme ça qu'elle travaille. Ce qui l'oppose à un moment à Marc, qui lui voilà, fait participer au fait de disperser dans l'atmosphère les vapeurs d'hydrocarbures, et pendant qu'elle construisait autre chose. Mais en même temps, elle est consciente que ce risque existe. À un moment dans leurs échanges, ils en parlent. C'est elle qui prononce le mot de Cassandre, hein, de scientifiques qui aujourd'hui ont une vision claire de la situation, une acuité, mettent tout sur la table pour alerter, pour tirer la sonnette d'alarme. Et le mythe de Cassandre, c'est ça. C'est quelqu'un qui voit ce qui va se passer, qui n'est pas dans les lucubrations. Mais voilà, les dieux l'ont maudite en faisant en sorte qu'elle ne soit crue par personne. C'est ça sa malédiction à Cassandre. C'est pas de voir n'importe quoi. C'est de voir juste et de ne pas être entendu. Et à un moment, ils se retrouvent quand même, Marc et Margaret, sur cette ligne qui a des discours que en tant que scientifiques ont apporté, enfin devraient porter aussi. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui se désespèrent.
Et ça fait du Doggerland un mythe d'Europe donc oublié, qui se relèverait du passé, mais qui serait aussi d'une certaine manière notre futur. Notre futur potentiel, si jamais il y a une immersion, des côtes au moins.
Ben, les projections du GIEC... Enfin, c'est vrai que quand on dit 2 ou 3 degrés de plus de température... On se dit, c'est pas grand-chose. L'été dernier, il faisait pas très chaud. Ça me dérangerait pas qu'il fasse 3 degrés de plus. Enfin, mais la différence entre une période comme aujourd'hui et la période glaciaire, vraiment, c'est 7 ou 8 degrés de température moyenne à l'échelle de la... Donc, en comparatif, température moyenne à l'échelle de la... C'est 7 ou 8 degrés. Donc, quand le GIEC, de manière négative, dit que ça pourrait aller à la fin du siècle jusqu'à 5 ou 6 degrés, alors c'est pas la période glaciaire, c'est dans l'autre sens. Mais c'est un changement aussi brutal. Mais c'est pas une vision... je me suis pas projetée dans une vision aussi négative que ça en écrivant le livre.
C'est pas du tout ça qu'on entend dans le livre, en tout cas. Non. On entend aussi...
Il y a peut-être aussi quand même une puissance, une énergie que donne cette... c'est comme ça aussi que j'ai voulu le construire. Il y a cet environnement sonore, cette enveloppe sonore de la tempête qui pulse aussi. Ça amène quelque part. Et puis on n'a pas des gens qui baissent les bras.
Quand je parlais des flux tout à l'heure, il y a quelque chose aussi, oui, qui est de l'ordre du flux vital, qui se maintient quoi qu'il arrive. C'est comme ça que vous le percevez ?
Oui. Ben, après, peut-être ça dépend de l'âge. Je crois qu'il y a des... Non, mais c'est vrai, je crois qu'il y a... Aujourd'hui, enfin, moi, quand j'ai démarré le livre, il y a un contraste quand même, c'est que quand j'ai commencé le livre, ou quand j'ai commencé à y penser, je finissais le précédent, qui donc est sorti en septembre 2014, la notion de collapsologie dont on entend parler aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est dans les 18 ou 24 derniers mois que tout d'un coup, ça a pris de l'ampleur, cette notion d'effondrement. Alors après, il y a Nicolas Hulot qui pose les choses et qui tient un discours, tout d'un coup on dit tiens, c'est plus la langue de bois des politiques, c'est autre chose, on n'a jamais entendu ça. Mais moi, quand j'ai écrit le livre, peut-être j'étais traversée par quelque chose qui finalement émerge maintenant. Parce que c'était c'était déjà en souterrain, et que quand on écrit ou quand on peint ou quand on fait du cinéma, on est aussi peut-être traversé comme ça intuitivement, ou on est sensible à des problématiques qui sont pas encore totalement présentes, totalement médiatisées, mais Et donc, ce sentiment d'une catastrophe imminente, effectivement, plane sur le livre. Et en même temps, je ne l'ai pas écrit comme ça. Donc, je ne sais pas comment...
Est-ce que ce n'est pas une affaire de vitesse ? Ce mouvement d'accélération, en tout cas de catastrophe de plus en plus imminente. J'ai eu l'idée, en lisant le livre, d'une certaine manière, que la littérature pouvait produire quelque chose de l'ordre d'une vitesse de compréhension de cette chose-là.
Alors, la littérature, dans le meilleur des cas, elle peut amener à se poser des questions. Enfin, en tout cas, quand on écrit, on s'en pose. On ne trouve pas toujours les réponses, et c'est probablement pour ça qu'on continue à écrire. Oui, la littérature peut susciter un certain nombre de questionnements. Après, est-ce que c'est un processus accélérateur ? Je pense que c'est un empilement. Enfin, il y a la littérature, il y a le cinéma, il y a des scientifiques qui prennent la parole, des gens qui écrivent des essais. Enfin, et puis tout ça, c'est une dynamique et à laquelle peut-être l'art peut participer, mais je ne pense pas que l'art tout seul dans son coin puisse révolutionner le monde. Ça, j'y crois pas. Mais on peut peut-être apporter une pierre à l'édifice. En tout cas, quand le livre est écrit, il n'est pas écrit dans cette perspective-là. Mais je pense plutôt que c'est en tant qu'éponge, imprégnée d'un certain nombre de, peut-être d'angoisse aussi, voilà, que ça ressort, mais porté par l'élan, parce que, par une dynamique, parce que, ne serait-ce que la parentalité, enfin voilà, quand on est parent, on peut avoir 60 ans, à s'être battu en tant qu'écologiste pendant des années et être un peu usé aujourd'hui, fatigué de voir que ça fait 50 ans qu'on, ou 40 ans qu'on prêche dans le vide. Mais aujourd'hui, quand on est parent, on peut pas baisser les bras. Enfin, on peut pas dire c'est foutu parce qu'on a nos jeunes autour et pour eux, ben voilà, il faut un avenir, il faut un espoir, il faut. Et les solutions, en plus, viennent d'eux, donc il faut qu'ils y croient.
Merci, Elisabeth Filliol.
C'est moi qui vous remercie.
Doggerland, c'est le titre de votre dernier roman, et il est publié aux éditions POL.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien.
Par les temps qui courent, vous retrouverez Marie Richeux lundi à 21h. Ce soir au son, c'était Philippe Mercher, Lise-Marie Barré à la réalisation. Merci à Anna Baron, Camille André, Jeanne Aléos et Lou Kevauvillier qui pensent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.
Et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.